Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Effectivement, tous les jours à 13h30 sur Europe 1, Franck Ferrand nous entraîne au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. 13h30 pour ceux qui nous suivent en direct, mais je sais qu'on nous écoute aussi pas mal en rediffusion la nuit et en réécoute sur Internet ou bien sûr grâce au podcast.
Alors, exactement.
Bienvenue à tous les auditeurs.
On vous salue. Je crois savoir que vous nous emmenez à Rome aujourd'hui.
Oui, Rome, alors la Rome des fêtes, hein, des banquets, des libations, certains pensent déjà des orgies, la Rome des bacchanales dont je vais vous parler tout à l'heure. Nous sommes en compagnie de la grande spécialiste du sujet, Catherine Salle, et vous allez voir que dans l'Antiquité romaine, l'amour était partout. L'année dernière, j'ai eu la chance de visiter au musée du Quirinal à Rome la somptueuse exposition consacrée, vous savez, à ces décors peints, ces fresques qui ornaient les villas romaines et notamment les salles à manger des Romains. C'était d'une beauté tout à fait renversante, et ce qui m'a frappé, c'est l'omniprésence des scènes amoureuses, parfois toutes petites et cachées dans un coin. Mais il y en a partout, même des scènes érotiques sur tous ces décors.
Alors c'est le moment de nous laisser des billets doux via Internet ou sur la page Facebook de l'émission.
Si ce sont des billets doux, je vous promets qu'on ne les lira pas tous à l'antenne.
(rire) 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Voilà ce qu'écrit Catherine Salle dans son dernier ouvrage. Il y a encore quelques années, les visiteurs de Pompéi n'avaient pas accès à de nombreux objets et fresques trouvés dans les fouilles de la ville, car on les jugeait obscènes et non visibles par un honnête homme. En 1822, lorsque s'ouvre le musée de Naples, le conservateur Arditi met de côté plus d'une centaine d'œuvres susceptibles de porter atteinte à la moralité publique et les réserve pour un cabinet secret où n'entreront que, je cite, « les personnes d'âge mûr connues pour leurs mœurs irréprochables ». Le cabinet secret existe toujours dans le musée de Naples et aujourd'hui la différence c'est que tout le monde peut le visiter à condition, nous dit Catherine Salle, de payer un supplément au billet d'entrée et chacun peut donc voir des œuvres considérées encore de nos jours comme indécentes. Je vais plus loin dans ce texte. Les visiteurs modernes sont en effet frappés par les multiples représentations de sexe, ce qui ne correspond pas à une lubricité grossière ou perverse des Romains. En réalité, pour eux, dans toutes les classes sociales, le fascinus, le phallus si vous préférez, permet de détourner le mauvais œil. Dans leur vie quotidienne, les Romains, pour désarmer les influences pernicieuses de certaines personnes malveillantes, utilisent beaucoup de gestes parlants à connotation sexuelle, comme le majeur tendu dans la main fermée ou la figue avec l'extrémité du pouce entre l'index et le majeur, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, qui évoque la pénétration du sexe masculin dans celui de la femme. Personne n'est choqué par ces gestes sans équivoque des doigts qui écartent le mauvais œil. Tous les bébés porte attachées autour du cou des amulettes en forme de phallus. D'où le danger, n'est-ce pas, qu'il peut y avoir à observer ces mœurs très anciennes, ces mœurs d'une autre civilisation, avec les yeux de la nôtre. Tout à l'heure, en compagnie de Catherine Salle, nous nous lancerons dans une exploration des mœurs romaines. Mais à titre de préambule, j'aimerais vous présenter une œuvre, alors, œuvre tardive de la littérature romaine dite licencieuse, œuvre tardive mais emblématique d'un monde ouvert à tous les jeux, y compris les jeux de l'amour. Cette œuvre, évidemment, c'est le Satyricon de Pétrone, une œuvre popularisée par le film de Fellini dont je vous propose tout de suite de retrouver les drôles d'accent.
Drôle d'accent, nous confirmons hein, sur Europe 1, Satyricon.
On est bien sur Europe 1.
On est bien sur Europe 1.
À 13h35, 6 maintenant. C'était donc le Satyricon de Pétrone, revu par Fellini sur cette musique tout à fait spéciale, créée pour l'occasion par Nino Rota. Le véritable Satyricon, le texte, signé Petronius Arbiter, est devenu célèbre par son réalisme incroyable. On va y revenir tout à l'heure. Par cette espèce de jovialité, parfois obscène, par sa connaissance aussi de tous les aspects de Rome, y compris ses bas-fonds, par sa truculence, par sa bouffonnerie qui nous fait évidemment songer à Rabelais, et en même temps, par cette espèce de raffinement extrême qu'on ne peut pas s'empêcher de qualifier de décadent à l'occasion, un raffinement confident parfois à la préciosité. Drôle de texte en vérité, fascinant témoignage, témoignage totalement mutilé, hein, puisque nous n'en possédons plus qu'une partie, à laquelle s'ajoutent quelques fragments. En tout, le texte de départ était 8 fois plus long. C'était une sorte d'incroyable odyssée dans les mœurs de l'époque. Le texte est à la première personne. Vous savez, le narrateur s'appelle Encolpe. En grec, ça veut dire l'embrasser, le tenu par les bras. Disons-le, il est ce que nous appellerions un gigolo, un mignon, si vous voulez. On ne sait pas exactement d'ailleurs ce qu'il fait. C'est un étudiant, on va dire, mais dont les mœurs sont plus que légères. On ne sait rien de ses origines. Il est présenté par son ami Eumolpe à un moment comme un homme libre et bien né. Donc on dit à ce moment-là que ce ne serait pas un affranchi, mais un autre personnage ailleurs le présente comme gladiateur vaincu et gracié, chassé de l'arène, ce qui évidemment est nettement moins reluisant. C'est en tout cas un beau jeune homme, à la fois très cultivé et très dépravé, ce n'est pas incompatible. Il se présente lui-même comme voleur, meurtrier, c'est quelqu'un de très déluré, ami du plaisir, passionné d'aventure, d'aventure au pluriel, bref, un bad boy si vous me passez l'anachronisme. Il se décrit errant aux côtés d'un adolescent gracieux et facile, Giton, qui donnera son nom à toute une catégorie d'adolescents gracieux et faciles, justement. Ils sont accompagnés par un acolyte qui n'est pas beaucoup plus recommandable, du nom d'Acilte. On les suit alors un peu partout, hein, du gymnase jusqu'à une auberge, jusqu'à un port. On les retrouve au bain, naturellement, où ils font la rencontre du riche affranchi Trimalcion. Ça, c'est fondamental, parce que c'est le personnage, espèce de nouveau riche hallucinant, qui les convie à festoyer chez lui, dans son hôtel particulier. Trimalcion étant lui-même un ancien esclave qui a fait fortune en faisant durant 14 ans les délices de son patron. C'est en tout cas ce dont il se vante à longueur de page. C'est ce qui lui a procuré, dit-il, un patrimoine énorme, un patrimoine de sénateur, patrimoine qu'il a su faire fructifier avec l'aide de sa femme Fortunata. Alors cette Fortunata, c'est une ancienne prostituée elle-même qu'il avait rachetée. Vous voyez, on est dans un monde là.
Dans une ambiance.
Ah ben c'est toute une ambiance. Mm-hmm. Ben, c'était, comme on dit, chose première chose.
Oui, tout à fait.
Le personnage quand même de Trimalcion est assez grossier sous sa richesse toute neuve. Il est même assez grotesque lorsqu'il se lance par exemple dans une danse du ventre qui fait honte jusqu'à sa femme. Trimalcion est particulièrement... On en connaît des gens comme ça, évidemment.
On ne citera pas de nom.
Non, ça surtout pas, mais il y a des gens qui, aujourd'hui même, sont assez proches de cette mentalité-là, très contents, finalement, de ne pas être parmi les raffinés. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire, en l'occurrence. Donc, il se lance dans une danse du ventre. Il est très fier de son cuisinier et de ses banquets. Hein. Ça, c'est, on est quand même à Rome, il ne faut pas l'oublier. Dans une période très tardive, on va y revenir. La description du repas en tant que tel occupe, en fait, un tiers du Satyricon, en tout cas de ce qu'il nous en reste aujourd'hui. Alors, le Loir confie au pavot, la vulve et les tétines de truie. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Tout ça paraît tout à fait normal aux convives, auxquels on apporte une poule de bois qui couvre des œufs de paon. Mais en fait, les œufs, la coquille est faite en pâte et dedans, on trouve toutes sortes de surprenants salmis. Vous voyez le degré de décadence, évidemment, de tout ça. Quoique, lorsqu'on fréquente aujourd'hui les établissements d'une certaine cuisine, on se rend compte qu'on n'en est plus très loin nous-mêmes. Plus tard, va arriver un sanglier flanqué de petits marcassins en pâte dure au milieu d'un équipage de chasse, parce qu'à chaque fois, il y a toute la mise en scène qui va avec, évidemment. Et puis, 3 porcs vivants, ornés de grelots et de muselières, parmi lesquels les convives vont devoir choisir celui qu'on va tuer et rôtir. Alors, le cuisinier fait rôtir le plus gros des porcelets, finalement, on va l'apporter bien rôti, mais le cuisinier feint d'avoir omis de le vider. Alors, évidemment, le maître réclame qu'on le fouette, puis finalement il dit non, tu vas le vider devant nous. Et à ce moment-là, on ouvre la panse de l'animal et en sort un flot fumant de saucisses et de boudins. Vous voyez le genre. On se demande, pour ceux qui prendraient l'émission en cours, nous sommes dans la littérature antique, dans ce qu'elle a de plus recommandable, nous sommes dans le Satyricon de Pétrone. Finalement, les trois larrons abandonnent ce festin interminable. Ils rentrent péniblement à leur auberge et le lendemain matin, ils sont complètement ivres-morts. D'ailleurs, ils ont chuté dans la piscine entre-temps. Au matin, Giton a disparu avec Asilt, évidemment en colpe et désespéré. Ils songent à se suicider avant d'aller se consoler, bon ma foi, dans une galerie de tableaux qui ne représente que des scènes d'amour heureuses, des scènes d'amour antiques. C'est d'ailleurs très intéressant cette visite à la galerie de peinture parce que on y découvre la conscience qu'avaient les contemporains d'une décadence. Aujourd'hui, dit le narrateur, on n'aurait plus ni la patience ni le savoir-faire nécessaire pour réaliser de tels tableaux. Et il ajoute, je cite la traduction, « Nous, plongés dans le vice, dans la débauche, nous n'avons même plus l'énergie d'étudier les arts existants, mais sans respect pour l'Antiquité, nous ne sommes plus capables que de donner et de recevoir des leçons de vice. Où est la dialectique ?» se demande en Kolpe. « Et l'astronomie ? Où est le chemin jadis fréquenté par les philosophes ?» etc. Vous voyez quand même que, quand je vous dis que cette œuvre est bourré de résonance pour notre époque, je crois que je ne m'avance pas beaucoup finalement.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Voici le générique signé Jeff Bill de la série télévisée diffusée sur HBO et qui s'intitule Rome.
Oui, magnifique série télévisée qui nous plonge dans une époque un peu antérieure, évidemment à la fin de l'époque impériale dont on parle à travers le Satyricon. Avec son nouvel ami, le poète élégiaque Eumolpe, ce qui veut dire Eumolpe, celui qui chante bien en grec, voilà donc en Kolpe parti à la recherche de Giton qui, s'étant enfui des bras d'Asilt, finit par les rejoindre. Tous trois vont s'embarquer à bord d'un navire en partance pour Tarente et c'est à bord que en Kolpe réalise que ce navire appartient à un certain Lycas et à sa compagne, la sublime Tryphène, qui ont, semble-t-il, de bonnes raisons de lui en vouloir personnellement. Le navire est pris dans un orage, Tryphème se sauve dans une barque en compagnie de matelots et les trois amis se retrouvent sains et saufs sur une plage. C'est à ce moment-là que Molpe, informé des mœurs et de la mentalité des riverains, décide de se faire passer pour un riche naufragé, ce qui va leur valoir à tous trois un accueil des plus délicieux. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça? C'est pour essayez de vous faire toucher du doigt l'incroyable originalité, l'espèce de fantaisie débridée de ce texte. Ce sont des aventures truculentes, inattendues, totalement, on pourrait dire qu'elles sont à la fois baroques, si l'on osait un anachronisme de plus, très variées bien sûr, pittoresques, essentiellement amorale, désinvolte, ironique, parfois triviale, parfois sublime. Bref, un texte totalement inclassable pour nous et qui nous donne un aperçu seulement, des complexités de l'ancienne Rome. Alors, vous imaginez bien qu'avec un tel contenu, le Satyricon est resté pendant très longtemps dans ce qu'on appelait l'enfer des bibliothèques, c'est-à-dire ce qu'on ne montre pas, bien entendu, à tout public. Ce qui ne veut pas dire du reste que le texte ait été ignoré, loin de là. Vous savez que La Fontaine parlait du bon Pétrone, Racine faisait ses délices du Satyricon. Plus tard, le puritain 19e siècle se montrera plus réservé. Voilà ce que dit la notice de la deuxième édition du Larousse à propos de cette œuvre. C'est un tissu d'impureté sans nom et d'obscénité révoltante, nous dit le dictionnaire Larousse. Alors, qui était l'auteur de tout ça? Qui était ce fameux Pétrone? On connaît un Pétrone dans l'histoire romaine, c'est le favori de Néron, vous savez, dont Tacite raconte la célèbre mort stoïque épicurienne. Il était proconsul de Bithynie, il était revenu à la cour où il vivait en philosophe. Il était aux yeux de l'empereur une sorte d'arbitre des élégances. Il aurait été victime de la jalousie d'un autre proche de Néron, qui le dénonce pour être l'ami d'un conspirateur. Et alors qu'il est en route pour la Campanie, où il doit rejoindre Néron, il reçoit l'ordre impérial de rester à Cumes. Et là, plutôt que d'affronter les affres de l'incertitude et de l'angoisse, eh bien, il préfère se donner la mort. C'est cette mort étrange, vous savez, il s'ouvre les veines, puis il les referme, il les rouvre. Il joue en quelque sorte une dernière fois avec la vie avant de quitter ce monde. Il aurait aussi, nous dit Tacite, c'est donc à prendre avec de très grandes pincettes, il aurait brisé un vase de prix qu'il ne voulait pas voir tomber aux mains de Néron et aurait envoyé au despote une satire à clé, c'est-à-dire dont les noms des personnages ne faisaient que déguiser à grands traits les véritables personnes ciblées. Cette satire scellée aurait donc été adressée à l'empereur. C'est la seule mention d'un écrit pouvant plaider en faveur de la paternité de ce personnage historique sur le Satyricon. En fait, de nombreux historiens de la littérature pensent que le texte est le fruit d'un travail beaucoup bien postérieur. L'auteur serait un anonyme du 2e-3e siècle, composant son roman sous le règne de Commode ou même sous celui d'Alexandre Sévère. Et du reste, la première référence au Satyricon que l'on trouve ailleurs est très tardive. Elle figure dans un écrit de la fin du 3e siècle. La question reste ouverte. Une thèse récente voudrait que le Satyricon ont été l'œuvre d'un affranchi secrétaire de Pline le Jeune et qui du reste s'appelait Encolpe, comme le narrateur du roman. On peut dire que la place énorme accordée aux affranchis, la richesse inouïe à laquelle ils se sont hissés dans le Satyricon, tout ça ne fait que renforcer cette thèse d'un texte assez tardif. On est là très longtemps après Néron et les premiers temps de l'Empire. On est dans une période vraiment très tardive de l'Empire romain, ce qui explique peut-être ses grandes affinités et ses rencontres assez stupéfiantes avec la nôtre.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'amour des Romains, voilà à ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1.
Alors oui, dans toute la deuxième partie de l'émission, en compagnie de Catherine Salle, nous allons développer cet aspect et remonter à une période bien antérieure, à l'époque républicaine ou même au 2e siècle avant notre ère. J'ai demandé là qu'on appelle au téléphone ma fameuse complice dans le combat pour la reconnaissance du véritable site d'Alésia. Daniel Porte est enseignant-chercheur à la Sorbonne, maître de conférence à l'Institut d'études latines. Et il se trouve que cette année, justement, elle enseigne à ses étudiants le Satyricon. Bonjour Daniel Porte.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce qu'on enseigne aujourd'hui le Satyricon? Vos élèves doivent ouvrir de grands yeux quand vous lisez certaines traductions.
C'est-à-dire que nous fabriquons notre traduction personnelle. En effet, j'ai avec mes étudiants une grande complicité et nous nous amusons beaucoup à faire deux niveaux de traduction. La première qui serait recevable pour un oral d'agrégation et la deuxième qui procède un peu de San Antonio, si vous voulez,
oui,
parce que
ça.
San Antonio Rabelais, c'est encore la meilleure façon de traduire le Satyricon.
Mais il faut dire qu'il y a chez Pétrone un style qui est très moderne. J'ai là sous les yeux une traduction qui date de 76 et qui dit quand même, alors vous savez, c'est au moment où on voit Encolpe qui est prêt à se suicider et puis il se fait apostropher par un soldat, vous savez, qui lui dit oui. « Allez, maintenant, barre-toi !» J'ai trouvé ça dans la traduction de l'époque. On est dans ce style très, paradoxalement, très archi-contemporain pour nous.
Absolument. Et si vous voulez, vous avez fait mon cours tout à l'heure, j'en suis d'ailleurs très contente, mes étudiants seront contents. Il y a plusieurs niveaux pour apprécier vraiment Pétrone, parce qu'en fait, c'est un érudit, c'est un raffiné, c'est un esthète qui s'amuse à faire comme si c'était un vaurien ou une canaille.
Exactement.
Ce qui fait souvent, c'est exagéré, justement parce qu'il veut se donner le langage qui n'est pas le sien.
Eh oui, c'est ça.
Autrement dit, de temps en temps, il y a des mots.
Il en rajoute un peu, finalement.
Bien sûr, il en rajoute même beaucoup. C'est un peu comme si on prenait Rabelais au pied de la lettre, ou si on prenait les tartines sexuelles de San Antonio, vraiment au pied de la lettre. Vous savez, huit fils à toupie tourbillonnante. Enfin bon, je pense que vous connaissez ça. Mais c'est un petit peu ça. Alors, dans un sens, traduire Tétron de façon édulcorée, c'est presque une trahison.
Mais oui, c'est ça. Il ne faut surtout pas. Voilà ce que nous disait Jean Riverain il y a 35 ans. Il dit dans le Satyricon, on croit vivre parfois un roman moderne avec des intellectuels comme nous en connaissons, des commerçants enrichis, des policiers, des filles et des petits truqueurs à la manière de Giton, et puis, soudain, quelque chose qui nous ramène brusquement à l'Antiquité, un certain fantastique qui fait irruption dans l'auberge, au coin de la ruelle ou dans la loge du portier. C'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de profondément ésotérique dans ce texte, Daniel Porte.
Absolument, et même de la philosophie au deux ou troisième degré, ce qui est une façon, en somme, presque de nous donner la clé de Trémalcion, qui, dans un premier temps, est un poussin, un personnage vraiment primaire, grossier, etc., etc., et puis qui, tout à coup, se révèle capable de faire de la philosophie, même de la très fine philosophie, se révèle capable de parler de la sophistique, alors que deux secondes avant, il le faisait apporter son pot de chambre à table. Donc, il y a vraiment plusieurs degrés. Et de temps en temps aussi, il y a des erreurs mythologiques monstrueuses. Et justement, c'est étudié pour, parce que le narrateur, à côté de cela, est parfaitement à même de comprendre et d'exposer Évidemment. Une mythologie parfaitement classique.
Un auteur qui, à travers son narrateur, s'amuse finalement avec le lecteur. Tout ça est infiniment moderne. Merci beaucoup, Daniel Porte. Vous viendrez nous parler des Gaulois et d'Alésia un de ces jours, promis.
Avec le plus grand plaisir. Merci.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et on passe maintenant à la partie magazine. On vous retrouve, Franck, avec votre invitée aujourd'hui, Catherine Salle, qui est grande spécialiste de l'Antiquité romaine et auteure du livre L'amour au temps des Romains, aux éditions First dans la collection Histoire.
L'amour au temps des Romains, vaste programme, Catherine Salle, ne serait-ce que par l'immensité de la période de référence. Les Romains dont vous parlez ne sont évidemment pas les mêmes selon qu'on prenne les Romains du 2-3e siècle avant ou les Romains du 2-3e siècle après Jésus-Christ.
Oui, l'histoire de Rome va du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est la plus grande histoire, je crois, d'un peuple dans l'histoire. Et c'est vrai que l'amour, en ce qui concerne l'amour, il y a eu une évolution. Il y a l'amour des premiers temps qui est un amour très banal, je dirais. Et petit à petit, il va y avoir des ouvertures, si on peut parler ainsi, vers d'autres horizons.
Et des raffinements et des sophistications incroyables qui sont évidemment dans l'imaginaire collectif restés attachés à l'image même de Rome. Mais ça, c'est une Rome impériale et déjà décadente. On peut remonter peut-être, j'aimerais que vous nous parliez du fameux scandale des Bacchanales qui va nous servir de point de départ. On est en 186 avant notre ère et c'est un énorme scandale qui va entraîner devant la justice plus de 7000 personnes à Rome.
Exactement, c'est une affaire extraordinaire. Nous n'avons que peu de renseignements parce que nous n'avons que le texte de Tite Live.
C'est ça.
Et c'est un dossier à charge, ça, il n'y a pas de doute. On ne sait pas exactement ce qu'il faut prendre et laisser. C'est un fait divers, en fait. Il y a des voisins qui se plaignent parce qu'ils ont des gens à côté d'eux qui font trop de bruit la nuit. Donc, on fait une enquête et on va découvrir par l'intermédiaire d'un tout jeune homme, qui a pour petit ami une prostituée, une courtisane, disons, plutôt qu'une prostituée. Et on va découvrir que dans une chapelle secrète se réunissent des gens qui sont des adeptes de Bacchus, c'est-à-dire de Dionysos.
C'est une sorte de secte, en quelque sorte.
C'est une sorte de secte religieuse, mais elle est très dangereuse pour les Romains parce que les prêtresses, ce sont des prêtresses. Donc, dans la religion romaine, les prêtres sont des hommes, en dehors de quelques exceptions comme les Vestales.
Oui.
Ils se réunissent la nuit. Alors, tout ce qui se passe la nuit est par définition suspect.
À une époque où l'électricité n'existe pas.
Voilà. Ils ne font pas du tout de distinction entre les gens qui viennent chez eux. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des vieillards, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des citoyens romains, il y a des esclaves, il y a des étrangers. Donc, c'est une sorte de mélange mélange de populations qui est absolument très dangereux pour Londres.
Et qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme carrément contre nature.
On ne mélange pas comme ça. On ne mélange pas les sexes, les âges, les conditions sociales. Et par conséquent, il va y avoir une enquête judiciaire. Rome va être bloquée, d'ailleurs. Plus personne ne pourra sortir de Rome. Et dans cette enquête judiciaire, on va, comme vous l'avez dit, effectivement, accuser 7000 personnes, dont beaucoup sont mises à mort. Et il y a tellement de femmes parmi les condamnées à mort que les bourreaux ne peuvent plus suffire à la tâche. Et donc, on remet en usage l'ancienne règle qui voulait que les pères de famille puissent exécuter à l'intérieur de leur maison leurs femmes ou leurs filles. Donc, ça a été quelque chose de...
Un traumatisme.
D'un traumatisme. Alors, il y a eu un Senatus Consulte
qui va limiter, en quelque sorte,
qui va limiter, que nous avons retrouvé. Ça, le Senatus Consulte, nous l'avons retrouvé. Mais le culte de Dionysos Bacchus a été complètement aseptisé, en quelque sorte, à partir de là.
Vous dites bien Dionysos Bacchus. Il existe une filiation évidente entre non seulement la mythologie grecque et la mythologie romaine, mais entre les mœurs des uns et celles des autres.
Oui, mais déjà en Grèce, les bacchanales, enfin, c'est-à-dire les fêtes en l'honneur de Bacchus, étaient considérées comme étant très, très dangereuses. Parce que on consommait beaucoup de vin, évidemment. On consommait aussi des drogues hallucinogènes, ça, il n'y a pas de doute. Et par conséquent, on était plongé dans un état second. Et il y a un certain nombre de légendes mythologiques, ou plutôt de légendes d'ailleurs que d'histoires, où l'on voit des bacchantes, c'est-à-dire les ménades, enfin les femmes qui suivaient ce culte, massacrées. Leurs pères, leurs enfants. Et d'ailleurs, la particularité des bacchanales, c'est que les hommes et les femmes qui y participaient devaient manger la chair crue d'animaux qu'ils ne les découpaient pas avec des couteaux. C'était à main nue qu'ils désossaient en quelque sorte ces animaux et qu'ils en mangeaient la chair.
On est donc dans des rites assez...
Oui, c'est un culte très intéressant,
barbare,
le culte de Dionysos.
C'est un paradoxe chez les Grecs, au cœur même du culte de Dionysos.
Oui, mais c'est le grand culte dont on ne connaît pas d'ailleurs très bien l'origine.
Alors, sous prétexte que, et encore là, il faudrait entrer dans toutes sortes de précisions, les Grecs reconnaissaient sous certaines conditions l'homosexualité, on a tendance à toujours imaginer la société grecque comme assez ouverte, presque débauchée sur le plan des mœurs, et on ne parle pas de la société latine, la société romaine. C'est l'inverse, la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la véritable explosion de la sexualité, elle intervient bien plutôt à Rome et non pas en Grèce.
Oui, en Grèce, on connaît l'exemple d'Athènes où la pédérastie est une forme d'enseignement, puisque un jeune homme doit passer par l'amour d'un homme adulte pour être...
C'est son initiation au sexe, en fait.
À Rome, la situation est un peu différente. On ne pense pas à l'éducation à Rome. Mais pour les Romains, il n'y a pas de différence entre hétérosexualité et homosexualité. La seule condition, c'est que les règles soient respectées.
C'est ça.
C'est-à-dire que un homme peut très bien avoir des relations homosexuelles, à condition que dans la relation, il soit l'actif et non le passif.
Alors, celui qui a le rôle passif est forcément soit un esclave, soit quelqu'un de dépravé.
Exactement. Bon, les esclaves sont là pour ça. Les petits-enfants en particulier, malheureusement, il faut le dire.
Vous insistez d'ailleurs, vous montrez très bien cet aspect. Ce qui nous horrifie
c'est
en termes de pédophilie, etc., pour les Romains, c'est tout à fait normal.
Oui,
en fait.
Il est tout à fait normal d'avoir un petit mignon avec soi. D'ailleurs, Trimalcion, dont vous parlez tout à l'heure, est avec son petit mignon, qui s'appelle Crésus, et qui est là, qui mange à table avec lui. Ça n'a rien de choquant. Mais là où ça devient choquant, c'est lorsqu'un homme, un citoyen, j'entends un citoyen de naissance libre, parce que là aussi, il faut faire la distinction entre les classes sociales, un citoyen de naissance libre devient passif dans la relation homosexuelle. Et à ce moment-là, alors, il est considéré comme un efféminé, comme quelqu'un qui ne vaut rien.
En fait, chacun a sa place et le sexe pourra s'exprimer, disent les Romains.
Exactement.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Le bacchanal, extrait de Tannhäuser de Richard Wagner sur Europe 1.
Oui, nous jouons sur les termes, puisque bacchanal, là, ça désigne plutôt une danse endiablée. Et chez Wagner, comme chez un grand nombre de compositeurs du 19e siècle, c'était le cas. Il n'y avait plus grand-chose à voir avec les bacchanales romaines, mais enfin tout de même, une sorte d'inspiration d'origine. Voilà, c'est ça.
Les bacchantes, oui, oui.
Exactement. Alors, on ne peut pas parler de sexualité romaine sans évoquer Paul Venn, évidemment.
Grand spécialiste.
Et notamment chez Talandier, son sexe et pouvoir à Rome. Oui, et il nous dit dans ce livre, l'épouse n'était à Rome qu'un des éléments de la maisonnée qui comprenait également les fils, les affranchis, les clients et les esclaves. Elle demeurait une adolescente à vie. Il n'y avait pas d'émancipation de l'épouse romaine
dans
en
les,
fait,
dans les institutions,
Salle.
Non, dans les institutions, il n'y avait pas d'émancipation. Dans la réalité, les femmes romaines, j'entends celles de la haute société, il ne faut pas voir ça peut-être dans toutes les classes sociales, mais les femmes romaines, à la fin de la République, 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis pendant tout l'Empire, étaient très émancipées. Elles avaient une vie qui n'enviait rien à celle des hommes, elles faisaient ce qu'elles voulaient, elles prenaient les amants qu'elles voulaient, si elles le voulaient, ce n'était pas obligatoire, mais elles le pouvaient. Et comme elles disposaient de leur fortune, elles avaient les moyens financiers pour le faire, et elles, il y avait très peu d'obstacles à ça. Auguste a fait une loi sur l'adultère, mais elle n'était pas suivie. Enfin, il n'y a que sa fille qui a été condamnée
ça.
Mais en fait, quand on voit l'existence des grandes dames du 1er siècle de notre ère, je pense à Messaline en particulier,
mais
à d'autres, elles ont eu des existences aussi libres que celles des hommes.
Et aussi libre quasiment que nos femmes modernes d'aujourd'hui.
Oui. Elles sortaient sans problème. Elles n'étaient pas, les femmes grecques étaient dans le gynécée, généralement, tandis que la femme romaine était à l'extérieur. Elle s'habillait comme elle voulait. La matrone antique avait un voile sur la tête. La femme romaine, on savait bien longtemps qu'elle n'a plus de voile sur la tête. Et puis surtout, les femmes romaines, ce qui n'a été le cas par exemple chez nous, il n'y a pas tellement longtemps, avaient la possibilité à partir du 1er siècle de notre ère de divorcer par elles-mêmes.
Ah oui.
C'est-à-dire que si elles voulaient divorcer, elles n'avaient même pas besoin de demander l'accord du mari. C'est le cas de Messaline qui a divorcé de l'empereur Claude sans même prévenir Claude, qui était quand même une surprise pour le pauvre empereur.
Je parle, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Je parlais au tout début de cette émission des décors, évidemment, dans lesquels sont presque omniprésents les petites scènes avec des satires, avec des scènes érotiques, des choses comme ça. Mais au-delà même du cadre de vie, il faut savoir que la littérature, par exemple, consacre un genre entier, les poèmes élégiaques, au désir et à l'amour. Alors là, on est dans un amour plus courtois, dans l'amour plus qui peut être, en tout cas, plus sentimental. Mais
oui.
Il y a une sorte d'omniprésence de l'amour dans cette société romaine.
Oui, c'est très nouveau parce que bien sûr que dans la littérature grecque il y a de l'amour,
oui.
Mais la littérature élégiaque dont vous parlez est une invention de Rome.
C'est ça.
C'est-à-dire, le poète dit « je » et raconte ses amours, ses déceptions, ses plaisirs, et c'est un genre très porteur. Enfin, il y a eu de très grands poètes élégiaques, il y a eu Ovide, il y a eu Tibulle, il y a eu Horace d'une certaine façon, il y a eu tous ces auteurs-là qui ont composé des œuvres absolument remarquables et qui ont beaucoup influencé ensuite la littérature européenne.
On a toujours aussi l'image d'un théâtre très débridé, un théâtre burlesque et quasi érotique à Rome. Je dis quasi, qui peut même être carrément érotique.
Même. C'est-à-dire que le théâtre classique romain, Plaute ou Terence, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ.
C'est ça.
À l'époque du début de notre ère, on ne joue plus, personne ne comprendrait d'ailleurs. Et donc on a ce qu'on appelle des mimes. Les mimes, ce sont des pièces dans lesquelles on reproduit la réalité. Ce n'est pas du tout par les gestes, c'est simplement la mimesis de la réalité. Et là, on montre tout. En particulier, on aime beaucoup les légendes mythologiques. Alors, les légendes mythologiques, quand Pasiphae se fait saillir par le taureau et qu'elle va donner naissance au Minotaure, on voit la scène sur le sable du théâtre. On le voit. De même, on tue en public. Enfin, on met des esclaves à la place du personnage qui doit mourir et l'esclave meurt réellement.
Réellement, oui.
C'est à la fois sexe et violence. Une live, comme on dirait de nos jours. C'est-à-dire qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Alors forcément, c'est très débridé. En plus, s'ajoute le fait que dans les mimes, il y a des actrices, ce qui n'est pas le cas dans les autres pièces de théâtre. Donc les actrices, on en profite pour les montrer très dévoilées. Elles sont presque toujours nues, elles inspirent d'ailleurs des passions extraordinaires. Donc, effectivement, les Romains au théâtre, comme dans l'amphithéâtre avec les combats gladiateurs, veulent du sexe et de la violence.
Et à propos de sexe spécifiquement, je disais au tout début de l'émission que le phallus joue un rôle quasiment de talisman, un rôle propitiatoire dans cette société romaine. Il est en représentation présent partout.
Il est partout. D'ailleurs, si vous allez à Pompéi, vous voyez dans plusieurs maisons qui ont encore conservé ce qui remonte à l'Antiquité, vous voyez soit une mosaïque, soit un bas-relief représentant un phallus. Mmh. Et disant le bonheur soit sur cette maison. Et c'est le phallus en question qui marque ça. Et d'ailleurs, même à Pompéi, sur la grande rue qui traverse Pompéi, il y a un phallus sculpté dans une des dalles. Alors on dit que ça indiquait le lupana. Pas forcément.
Oui, c'est ça. On a longtemps essayé de voir tout ça avec nos catégories du 19e siècle. Non. Mais en fait, on se rend compte, en étant un peu plus ouvert d'esprit,
qu'en fait, c'était très courant. Et puis, ça ne choquait personne. Les enfants, les jeunes filles, tout le monde voyait ça et on n'en était pas choqués.
Ça faisait partie de la vie. Mais
ça
d'ailleurs,
fait partie de la vie.
Ça fait partie de la vie. Merci, Julien, de nous le préciser.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous nous intéressons aujourd'hui à l'amour au temps des Romains, Franck.
Et nous en arrivons à la fin de l'époque romaine, en quelque sorte, donc à ce qu'on appelle le bas empire. Finalement, Catherine Sall, c'est l'époque qui ressemble incontestablement le plus à la nôtre. Je parlais tout à l'heure du Satyricon de Pétrone, qu'on ne peut pas dater exactement, mais qui est probablement du 3e siècle, on peut l'admettre, non? Vous voudriez le voir de Pétrone.
Plutôt à la fin du 1er siècle de notre ère.
Du vrai Pétrone.
Pas de Néron, mais pas à l'époque de Néron, mais un peu plus tard.
Un petit peu plus tard.
À cause de certains. Enfin bon, ça c'est un.
Oui, enfin après, oui,
c'est une grande lutte entre tous les
discussions d'érudits latinistes. Oui. En tout cas, ce qui est très frappant lorsqu'on lit le Satyricon pour y revenir, c'est la très grande ressemblance avec un certain nombre d'aspects de la vie sociale d'aujourd'hui, et non pas seulement de la vie sexuelle du reste. C'est un miroir que nous offre la société romaine.
C'est-à-dire que la société romaine de cette époque-là a pour point commun avec nous que c'est une société de consommation. C'est-à-dire qu'il faut consommer, il faut profiter de tous les biens qui s'offrent aux hommes et aux femmes, parce que les femmes ont aussi leur rôle là-dedans. Bon, c'est vrai que il y a dans cette société des points qui sont révoltants. Nous avons évoqué tout à l'heure l'amour avec les petits-enfants. Et puis, il y aurait beaucoup à dire aussi sur les prostituées, sur ces femmes.
Mais les prostituées qui sont très hiérarchisées.
Très
en fait.
Hiérarchisées.
Là aussi, il y a des catégories.
On parle de la
prostituée de rue très, très...
Il y a celle qui est qui fait les tombeaux, si on
c'est
peut
ça,
dire.
Oui, c'est ça.
Qui est dans les cimetières. Et puis, il y a les grandes courtisanes.
Les courtisanes qui deviennent des sortes de
caïchas,
en fait.
Courtisanes au début du 20e siècle, quoi, c'est ça. Alors c'est vrai que la prostitution, mais ça après tout, elle est aussi choquante de nos jours qu'à l'époque romaine. Hein, on a les mêmes problèmes en fait. Et si on met de côté, mais enfin ce ne sont pas des détails, hein, ces éléments-là, il est certain que les Romains sont nos frères, ou plutôt nous sommes les frères et les sœurs des Romains dans beaucoup de domaines.
Nous sommes un peu leurs enfants.
Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait.
La nature des relations amoureuses, là je ne parle plus spécifiquement de sexe, mais est-ce qu'il y a un romantisme? Est-ce qu'il y a une exaltation du sentiment amoureux à Rome?
Ah, tout à fait, grâce à la poésie.
Vous avez remarqué comme j'essaie de remonter
oui,
un petit
oui,
peu
mais
le
vous avez moment. Raison. Grâce à la poésie élégiaque, il y a eu des gens qui étaient très profondément amoureux les uns des autres, et le sexe n'était qu'un aspect de cet amour. Il y avait, on voit, je vous dis, dans cette poésie d'Ovide ou des autres, de Tibulle, de Properce, on voit toutes les nuances de l'amour, avec la jalousie en particulier, qui est souvent très forte. Et c'est vrai que les poètes élégiaques latins ont laissé ce modèle de cet amour qui n'existait pour ainsi dire pas dans la poésie grecque.
Est-ce que après la chute de l'Empire romain, un certain nombre des modèles de la sexualité vont disparaître? Et est-ce que, pour préciser ma question, est-ce que l'irruption du christianisme au milieu de tout ça modifie les choses? Je connais la réponse.
Oui, bien entendu, le christianisme introduit la notion de péché, ce que ne connaissaient pas les Romains ou les Grecs d'ailleurs. Et à partir du moment où la notion de péché, il y a une distinction entre ce que l'on fait qui est bien et ce que l'on fait qui est mal. Alors que pour les anciens, c'était des distinctions qui jouaient sur les classes sociales en fait. Il y avait ceux avec qui on pouvait faire et ceux avec qui on pouvait pas. Alors que le péché de la religion chrétienne, lui, modifie complètement le point de vue.
Oui, et il va finir par rendre tout ça...
Oui, c'est-à-dire que les relations sexuelles dans la religion... Dans le christianisme, sont toujours mauvaises. Enfin, on le voit dès le 5e siècle, hein, où on considère comme redoutable d'avoir des rapports entre un homme et une femme. Je ne vous parle même pas des rapports entre un homme et un homme, ou une femme et une femme. Non, des rapports entre un homme et une femme.
Mais même entre un homme et une femme.
Et on va les cloisonner, on va dire... On peut faire l'amour à telle époque de l'année, pas à telle époque. Alors que, bon, pour les anciens, grecs comme romains, ça n'avait aucun sens.
J'aimerais qu'on finisse justement sur ce partage du monde et des sens, masculinité, féminité. Il y a d'abord à Rome une sorte d'exaltation de la virilité.
Bien sûr. Et oui, nous sommes dans des sociétés d'hommes. Et
martiales.
Et donc, tout ce qui est relatif à l'homme est forcément glorifié. Alors que la femme, nous n'avons finalement que très peu de renseignements sur ce qu'elles éprouvaient. Nous avons beaucoup de renseignements sur leur vie et tout, mais ce qu'elles éprouvaient réellement...
Et oui, comment le savoir ?
Comment le savoir ? Alors, il y a eu une poétesse, latine quand même.
Et il faut la citer.
Oui, qui a écrit de la poésie élégiaque sur son amant, et qu'elle aimait beaucoup, et qui était d'une classe sociale inférieure à la sienne. Et donc, c'est le seul. Toute la littérature est masculine. Et même les inscriptions sont... Parce que les inscriptions apportent aussi beaucoup. Les inscriptions sont faites par des hommes, généralement très rarement par des femmes.
Rome est un empire immense et qui accepte évidemment les influences étrangères également.
Tout à fait. Oui, ça, les Romains n'étaient pas, comme on dirait de nos jours, racistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où...
On acceptait un socle.
Les citoyens romains, à partir du 1er siècle, sont de toutes origines. On a des Syriens, on a des Égyptiens, on a des Gaulois, on a des Africains. Et ce qui compte, c'est leur statut social. Ce n'est pas leur origine ethnique. On ne se moquera pas d'un homme ou d'une femme, à plus forte raison, parce qu'elle est noire de peau ou parce qu'elle n'est pas née à Rome.
Mais le fait que l'Empire romain soit allé assez loin en Orient et au Sud a également contribué à ouvrir en quelque sorte ses mœurs.
C'était d'excellents utilisateurs, les Romains. C'est-à-dire qu'ils prenaient dans chez tous les peuples qu'ils ont conquis, ils prenaient ce qu'il y avait de mieux. Pour vous donner un exemple, chez les Gaulois, ils ont pris le tonneau qu'avaient inventé les Gaulois et le pantalon qu'avaient inventé les Gaulois.
Les brais. Merci. Merci beaucoup, Catherine Salle. L'amour au temps des Romains, c'est chez First Histoire. Paul Venn, Sexe et pouvoir à Rome, avec une préface de Lucien Gerfagnon, c'est une coédition Talendier et du magazine L'Histoire. Et puis, nous avons eu tout à l'heure Daniel Porte au téléphone. Parmi ses nombreuses publications, vous avez aussi de très nombreuses publications, d'ailleurs, Catherine Salle, je voudrais citer Fête romaine antique, édité chez Claire Sud, avec des illustrations magnifiques de Michel Tesser. C'est un aperçu, j'ai envie de dire, très vivant, très direct aussi, de cette civilisation romaine. On ne sait pas passer le mot, mais on aurait pu parce que
c'est
là...
C'est une émission extrêmement cohérente.
Là, c'est une programmation totalement parfaite.
Une programmation extrêmement parfaite puisque vous avez parlé avec élégance de l'amour au temps des Romains et nous allons évoquer les nouveaux accessoires du plaisir. En 2011, quels sont ces jeux qui peuvent vous amuser sous la couette avec votre partenaire? Les nouveautés dont je suis sûre vous vous étonnez. On va tout vous raconter. On va avoir plein d'objets ici dans ce studio pour tenter de vous expliquer au mieux les choses. Venez nous raconter, vous, si l'usage de sextoy a pimenter votre vie de couple, votre vie sexuelle. Ont-ils changé votre vision du sexe avec votre partenaire? Est-ce que vous avez eu également des galères avec des sextoys? Pourquoi pas? Vous avez peut-être fini à l'hôpital. N'hésitez pas à venir nous en parler au 39-21. Vous voyez, c'est une...
L'archéologie nous montre que les sextoys en question existaient.
Les romaines.
Ah bah oui, c'était quoi à l'époque?
C'était des...
La même chose qu'aujourd'hui.
La pierre. Voilà, c'est ça.
Oui, c'était en peau généralement.
Ah, en peau. Oui. Vous allez voir qu'il y a des nouvelles matières qui sont très performantes et je suis persuadée que Franck sera ravi de l'apprendre.
Vaste programme. Merci beaucoup, Faustine.
À demain, Franck.
À demain, Julien.